Architecture intérieure, regard croisé, le podcast qui décrypte le métier d'architecte d'intérieur. Une émission présentée par Fabrice Coustet.
Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans cette toute première édition de Regards croisés, l'émission qui donne la parole aux architectes d'intérieur. Effectivement, mieux connaître cette profession, savoir quand et comment faire appel à eux, pour quels avantages. Mais avant cela, nous allons décrypter ce métier, comment cette profession est née, comment elle s'est organisée en France, mais aussi à l'international. Et pour répondre à ces questions, je suis en compagnie de trois spécialistes. On accueille sur le plateau Yves Paulet. Bonjour Yves.
Bonjour.
Vous êtes architecte d'intérieur CFAI. Alors CFAI, c'est Conseil français des architectes d'intérieur. Vous êtes également vice-président du pôle action des architectes d'intérieur Île-de-France.
Oui.
Bienvenue. On accueille alors à distance Marion Bochirol. Bonjour Marion.
Bonjour.
Vous êtes également architecte d'intérieur CFAI. Vous exercez depuis 2004 dans la région lyonnaise. Vous êtes présidente du pôle action des architectes d'intérieur en Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2018. Bienvenue à vous. Et enfin, nous sommes en compagnie de Thierry Conquet. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Également architecte d'intérieur CFAI. Vous êtes également designer. Vous exercez au sein de votre agence parisienne K&Co depuis près de 35 ans. Vous êtes en outre le représentant de CFAI auprès du European Council of Interior Architects, ECIA.
C'est exactement ça.
Voilà.
Et donc le plus vieux autour de la table.
Depuis 10 ans, le doyen sur notre plateau, celui qui a le plus d'expérience. Alors, je le disais, au cours de cette émission, on va voir qu'est-ce qu'un architecte d'intérieur, comment la profession s'est organisée, voilà, à quoi ça sert exactement. Mais tout d'abord, avec vous, Yves, on fait cette introduction, ce premier numéro. J'ai envie de poser la question, pourquoi avoir créé cette émission sur Bâti Radio ?
Eh bien, c'est venu simplement pour le besoin de parler de l'identité d'une activité professionnelle très spécifique, l'architecture intérieure, et donner la parole à des professionnels qui, généralement, ne l'ont pas.
Donc, on va mieux les entendre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ne l'ont pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'y pense pas, ou on les confond peut-être avec d'autres professions ?
Oui, je crois qu'on est souvent confondu parce que en fait, nous sommes une profession de gens très discrets.
Trop discret.
Trop discret peut-être. Et finalement, on laisse les autres parler de nous, mais souvent avec beaucoup de confusion. Mmh. Et donc, nous est venue l'idée que peut-être il fallait réussir à ce qu'on parle mieux de nous, qu'on soit mieux identifié et faire prendre conscience à nos clients potentiels, tant professionnels, toutes activités confondues, que résidentielles, que faire travailler un architecte d'intérieur, c'est au fond faire une économie.
Donc
pour une qualité de travail optimale.
On va voir tout ça au sein de cette série de plusieurs podcasts. Thierry Conquet, vous êtes d'accord avec ce constat fait par Yves Paulet sur les architectes d'intérieur ?
Oui, Yves a parfaitement raison. Je rajouterais juste un point, c'est que le nombre d'architectes d'intérieur en France est assez réduit, puisqu'on estime la population à entre 2000 et 3000 professionnels. Et quand on compare ça, par exemple, au nombre d'architectes, qui sont 35 000 actuellement, ça fait à peu près 1 pour 10. Mmh. Donc, on a l'habitude de parler de spécialistes. Nous sommes des spécialistes de l'espace.
Finalement. Et quelle est la différence, justement, tiens, architecte d'intérieur, on a l'impression que, bon, l'un peut peut-être faire l'autre, c'est-à-dire quand on va aménager sa maison, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, on va poser cette question à Marion, qui est avec nous à distance. Voilà, comment on définit ? Qu'est-ce qu'est exactement un architecte d'intérieur, Marion ?
Alors, si vous voulez bien, déjà, dans un premier temps, on va essayer de définir notre profession plutôt par rapport à nos spécificités, plutôt par rapport à ce qu'on n'est pas ou par rapport à d'autres professionnels du bâtiment. Donc, comme son nom l'indique, l'architecte d'intérieur conçoit l'espace à l'intérieur du cadre bâti. Mmh. Évidemment, il fait partie de la grande famille de la conception architecturale, hein, au même titre que les architectes, évidemment. Mais c'est aussi un concepteur, et ça, c'est important, qui mène sa création jusqu'à son terme. Qu'on appelle nous un maître d'œuvre, c'est-à-dire qu'il va assurer aussi le suivi de chantier. Il est titulaire d'assurances professionnelles très spécifiques, hein, en responsabilité civile et décennale, qui lui permettent d'exercer pleinement cette activité de maîtrise d'œuvre, hein, qui est quand même très particulière par rapport à de la conception. Comme on commençait à l'évoquer, les domaines d'intervention sont très larges. Hein, on peut intervenir sur, par exemple, de l'hôtellerie-restauration, du commerce, des établissements de santé, d'éducation, de culture, d'habitat. Mais comme chez d'autres professionnels libéraux, comme des avocats, des médecins par exemple, chaque architecte d'intérieur peut aussi se spécialiser dans un champ très, très particulier ou intervenir de manière un petit peu plus généraliste.
Tiens, je fais une petite interruption.
Oui.
Justement, vous, autour de la table, est-ce que justement vous êtes généraliste ou vous êtes spécialisé? Marion Bouchirol, pour vous.
Alors, moi, pour ma part, j'ai commencé à travailler plutôt dans le domaine de l'habitat. Donc, je me suis principalement intéressée à ce domaine-là pendant une bonne dizaine d'années. Et depuis 5-6 ans, j'essaye maintenant de développer également tout ce qui est question autour des lieux de travail. Alors, aussi bien pour d'autres professionnels libéraux. Je fais pas mal de paramédical en ce moment. Et donc, j'essaye d'étendre un petit peu mon activité. Mais par exemple, moi, je suis pas du tout familière avec le commerce ou l'hôtellerie-restauration, qui sont aussi des domaines très, très spécifiques dans nos métiers, avec des contraintes techniques et réglementaires qui sont bien spécifiques.
Thierry Conquet, pour vous, votre agence est spécialisée?
Alors, je ne sais pas quoi dire sur 35 ans parce que, en fait, ce sont des
cycles. Vous avez tout fait.
On a un peu tout fait. Donc, il y a eu des périodes dédiées à la mode ou prêt-à-porter. Il y a des périodes qui sont dédiées à des laboratoires pharmaceutiques, d'autres périodes qui sont liées à la banque ou au tertiaire.
Oui.
Et puis, évidemment, chacun d'entre nous, chacune de nos agences a un réseau de particuliers. Ces particuliers viennent soit directement dans nos agences, soit sont issus d'autres clientèles plus professionnelles, comme par exemple quand vous travaillez pour un banquier, il est fort probable que vous soyez amené à refaire sa maison. Voilà, donc nous sommes spécialisés dans rien du tout. Par contre, on a fait beaucoup de ce qu'on appelle le retail, c'est-à-dire des boutiques pour des marques et pour des grands groupes. Voilà, mais on fait aussi beaucoup d'autres choses.
Très bien. Yves Paulet, quant à vous.
C'est la même réponse que Thierry, au fond, en 25 ans d'agence, des cycles.
Donc,
habitat, commerce, tertiaire, un peu d'hôtellerie.
Est-ce que j'ai une question d'actualité? On a traversé des turbulences, petite crise sanitaire qui est passée par là. On a jamais autant habité nos maisons, les uns les autres. Là, je parle pour les clients privés. Est-ce que vous avez vu un surcroît de demandes? On sait que les gens se sont mis au bricolage, mais est-ce qu'ils ont eu le réflexe de se dire « Tiens, moi, j'ai envie de réinventer mon intérieur, je vais faire appel à un architecte d'intérieur ».
Je n'ai pas senti véritablement de rebond. Une volonté de refaire chez soi, mais souvent avec un fantasme dû à des émissions très grand public télévisées qui ont laissé à penser que l'architecture intérieure était à la fois gratuite et durée de jour. C'est pas vrai. Et donc parfois on est appelé par des gens qui n'ont pas le budget, tout simplement, parce qu'ils restent sur cette idée, malheureusement, et c'est aussi une des raisons de cette émission, de bien remettre les choses en place. C'est-à-dire que la réalité, c'est que les travaux coûtent quand même un prix plutôt important, que ça dure longtemps, longtemps, en tout cas du temps, parce que chaque corps de métier a besoin de son temps pour travailler et faire ses finitions. Donc voilà, mais pas spécialement de rebond.
Je
rajouterai... Moi, pour compléter...
Alors Marion, allez-y.
Pardon. Pour compléter, alors moi j'ai senti... Au contraire, qu'il y avait des nouvelles demandes et des nouveaux usages qui sont apparus, parce que, évidemment, le télétravail s'est un peu généralisé, et on s'est rendu compte que notre habitat n'était pas fait pour travailler dans la plupart des cas.
Tout à fait.
Et par contre, ces demandes-là ont été, pour ma part, plus importantes de ce point de vue-là, d'essayer d'adapter ce nouvel usage de l'habitat, qui peut-être va se pérenniser, peut-être pas, on verra les choses arriver dans les prochains mois. Mais en tout cas, nous, notre rôle a été effectivement d'amener cette nouvelle fonction au sein de l'habitat, et puis tout ce que ça va générer aussi en termes éventuellement de conflits entre la vie privée et la vie professionnelle. Il y a aussi tous ces éléments-là. On ne fait pas juste du projet dans la maison, mais on réfléchit aussi à tous ces usages-là. Et ces contradictions d'usage qui peuvent apparaître, bien évidemment.
Ouais, amener le bureau, et c'est vrai, à la maison, on en a de plus en plus besoin. Et puis, il y en a même qui se dessinent peut-être à 2 jours, 3 jours de télétravail. Alors, le pendant, Marion Bougirol, c'est qu'on a aussi des entreprises qui sont en train de se réinventer. S'ils disent, tiens, des espaces, on va peut-être en faire des lieux différents. On va aménager cet espace de travail, qui d'ailleurs n'est peut-être moins un espace de travail que de réunion. Thierry Conquet, est-ce que vous avez aussi une demande de la part des professionnels, notamment sur les bureaux?
Oui, alors, pour rebondir sur ce que disait Marion et pour répondre à votre question, il y a souvent une méprise qui existe sur ce qu'est le thème de la déco ou ce qu'est la création de l'espace. Ouais. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose on doit faire face à cette demande-là parce qu'il y a souvent beaucoup de méconnaissance de la part des maîtres d'ouvrage ou de nos clients qui pensent que changer la couleur du salon ou changer la couleur du bureau va d'un seul coup permettre de transformer le mode de vie. C'est la grande différence entre la décoration et la création de l'espace ou l'architecture intérieure. On a l'habitude entre nous, entre professionnels, de parler de territoire et de trajectoire. C'est quelque chose qui est très important pour les phénomènes de conception. Créer un territoire pour une fonction donnée ou pour des habitudes de vie ou pour un mode de vie, créer des trajectoires pour relier certains espaces, sont des choses qui sont perpétuellement sur nos planches à dessin. Le Covid a effectivement amené une réflexion là-dessus. C'est-à-dire que ce soit dans un hôtel, on voit la transformation des chambres d'hôtel, où on voit la transformation des habitats chez soi, ça n'est pas que aller dans une grande enseigne de distribution liée au bricolage qui va permettre de faire ça. C'est souvent la conception même d'un espace qui est à reprendre en compte. Et dans ce cas-là, il faut peut-être s'adresser à un vrai professionnel qui est capable d'avoir une réflexion à long terme.
Et alors justement, redessiner l'espace, ça ne se fait pas tout seul. Ou en tout cas, il y a différents corps de métier qui interviennent. Et justement, Marion, je vous redonne la main. Justement, vous travaillez avec bien d'autres professionnels du cadre bâti.
Alors, comme on le disait tout à l'heure, oui, tout va dépendre de l'ampleur des projets, mais c'est vrai que l'architecte d'intérieur intervenant dans le cadre bâti, il est amené nécessairement à travailler, alors voilà, selon les projets, mais avec des architectes, des économistes, des ingénieurs et des décorateurs dont on parlait aussi tout à l'heure. En fait, tout est question d'échelle dans ces professionnels. L'architecte d'intérieur, lui, va être vraiment au plus près de l'être humain, de son environnement, vraiment immédiat. Donc nous, c'est vrai que nos projets se conçoivent à partir de l'humain, à partir de la personne qui va habiter, qui va travailler ces lieux-là. Et on est vraiment, nous, à la frontière entre le bâti et l'usage intérieur qui va en découler. Et donc, toute l'évolution et toute la rénovation du cadre de vie, et bien sûr, maintenant, les enjeux écologiques et sociétaux qui les accompagnent, puisque nos clients sont de plus en plus sensibilisés aussi à ces problématiques écologiques. Et on sait que le bâtiment est une des sources de production de
gaz à effet de serre, oui,
de matière, de transport, etc., qui est dans les plus importants. Et donc, on a aussi, nous, une responsabilité sociétale de ce point de vue-là sur tous ces enjeux écologiques et sociétaux qui accompagnent ces mutations intérieures.
Oui, alors là aussi, un retour sur l'actualité avec les différents rapports plus alarmants et alarmistes les uns que les autres fait par le GIEC, par exemple. C'est vrai que là, professionnels comme à l'échelle de l'individu, on est de plus en plus intéressés et préoccupés par ces sujets. Est-ce qu'il y a une demande de la part des entreprises, justement, pour utiliser des matériaux plus économes? On sait qu'il y a la mise en œuvre de nouvelles normes, là, qui arrivent très très vite, la RE 2020 à partir du 1er janvier 2022. Est-ce que ça modifie votre façon de travailler, Alain Boucherol?
Écoutez, alors je dirais plus que l'impulsion des entreprises, c'est vraiment l'impulsion des maîtres d'ouvrage et notre impulsion à nous, architectes d'intérieur, pour amener ces problématiques environnementales sur le terrain. Parce qu'on est tout à fait conscient qu'on ne construit pas pour les 2 années qui arrivent, on construit et en tout cas on met en œuvre des éléments qu'on veut durables. Et le plus responsable possible aussi, alors dans l'immédiat, mais aussi sur le long terme. Et je dirais, cette notion d'écologie, elle n'est pas uniquement comprise dans le choix des matériaux, elle est en soi également inclus déjà dans notre métier, qui travaille sur un cadre bâti existant plutôt que de travailler sur de la construction de nouvelles surfaces. Donc en soi, le métier d'architecte d'intérieur est déjà dans cette démarche-là de transformation d'un bâti existant. Et puis surtout, en répondant à ces problématiques d'usage, alors immédiates, mais aussi sur le plus long terme, on est amené, nous, à concevoir des intérieurs qui peuvent justement évoluer de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide d'un usage à l'autre, que ce soit sur un changement d'activité, que ce soit sur une évolution de l'activité. Mais notre travail est là aussi pour travailler sur du long terme. C'est pour ça que tout à l'heure, Thierry parlait de l'échelle, enfin de l'espace et du temps, mais on est vraiment dans ces deux enjeux-là, et la notion écologique et économique se fait aussi par par ces questions d'usage sur le plus long terme.
Oui, d'ailleurs, il y a de plus en plus d'architectes qui travaillent aussi sur la réversibilité du bâtiment, c'est-à-dire se dire, bah, tiens, on va bâtir quelque chose qui va forcément durer plusieurs dizaines d'années, voire plus. On est ici au cœur de Paris, en plein quartier haussmannien, donc c'est fait pour durer. Par contre, on ne sait pas quels seront les usages, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui des bureaux qui deviennent des logements ou inversement. Est-ce que dans le domaine, chez les architectes d'intérieur, on a cette notion aussi de se dire, bah, tiens, aujourd'hui, essayons de faire quelque chose qui va pouvoir se réutiliser ou se reconfigurer facilement?
Alors, dans le domaine de l'habitat, c'est quelque chose nécessairement auquel on pense très très rapidement, puisqu'on voit les évolutions familiales et sociales, avec notamment, je pense aux familles recomposées, aux parents âgés qu'on va venir accueillir quand ils sont en perte d'autonomie. Dans le domaine de l'habitat, c'est vraiment quelque chose qu'on prend en compte dès le départ, c'est-à-dire qu'on va certes rénover ou faire évoluer pour la famille telle qu'elle est actuellement, mais on pense à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, et c'est des éléments qu'on intègre dans notre conception pour que justement ces évolutions-là soient le plus simples possible pour nos clients par la suite.
Voilà, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur ce métier d'architecte d'intérieur. On va se pencher maintenant vers l'histoire, un petit peu. Voilà, on a Thierry Conquet, donc, à qui on va demander de nous faire un peu ce panorama. Comment s'est structurée cette profession? Comment elle est née, Thierry Conquet?
C'est un long trajet, puisque la frise historique dont on peut parler s'étend maintenant sur 100 ans. Le 1921, c'est la création de l'UAM, l'Union des artistes modernes.
Par des Donc gens... il y a un siècle tout.
Ben, oui, on peut le placer comme ça. Il y avait déjà des prémices de toute cette activité-là autour des objets de la vie ou des lieux de la vie quotidienne, avec la création de l'Union des arts décoratifs, par exemple, en 1885. Bon, ça peut remonter beaucoup plus loin que ça. Mais la création de l'Union des artistes modernes par des gens comme Charlotte Perriand ou Robert Malestévens, c'est le début des années 20. Et puis ensuite, vous avez une suite ininterrompue d'associations professionnelles, l'une remplaçant l'autre au gré des modes, au gré des goûts, au gré des appellations, pour arriver aujourd'hui à ce qu'on appelle le pôle action des architectes d'intérieur. Alors, au milieu de toute cette frise-là, vous avez une balise très importante, mm-hmm. qui est la création de l'OPQAI, qui est l'Office professionnel de qualification des architectes d'intérieur, en 1981, et qui était quelque chose juste après la loi sur l'architecture de 1977, créée par le Conseil national de l'Ordre des architectes, qui a souhaité reconnaître ce qu'était une activité liée à l'aménagement et à la création de l'espace, et qui n'apparaissait pas dans cette loi de 77. Et l'OPQAI a été pour nous tous la base de beaucoup de choses, puisque ça a été un moment de reconnaissance d'une activité spécifique au cœur de la famille de la conception architecturale. Mmh. Alors, l'OPQAI a duré 20 ans et a été remplacé par le CFAI, le Conseil français des architectes d'intérieur, en 2000 ou 2001, suite à la décision du Conseil national de l'Ordre des architectes de se retirer du conseil d'administration, jugeant, et j'ouvre les guillemets, que cette profession était arrivée à maturité, comme disait un de ses présidents de l'époque, Jean-François Susini. Voilà, en gros, voilà l'histoire. Donc vous avez aujourd'hui une profession qui est très structurée, remplie de bénévolat, de gens qui sont dans des têtes de structure en province, en région, à Paris, et qui essayent de faire vivre une activité professionnelle qui a beaucoup de notoriété alors qu'elle est très petite.
Mmh. Je pense à ceux qui nous écoutent, est-ce que peut-être ça va créer des vocations cette émission? Est-ce qu'il y a un parcours, un cursus, des études spécifiques ou des écoles qui préparent à ce métier?
Alors oui, l'OPQAI puis le CFAI reconnaît non seulement l'architecture intérieure et les architectes d'intérieur, et par là même les établissements d'enseignement qui forment à cette activité. Et donc il y a une quinzaine d'écoles aujourd'hui reconnues par le CFAI qui forment des architectes d'intérieur. Mais il y a beaucoup d'autres formations qui existent aussi, par contre avec des niveaux très différents. Nous, au CFAI et dans ces associations qui sont réunies aujourd'hui autour de cette table, on favorise 5 ans d'études, c'est-à-dire l'équivalent d'un grand master, parce qu'on s'aperçoit que ça n'est ni en 2 ans ni en 3 ans qu'on fera le tour du problème. Mmh. Voilà. Et puis tout ça tourne autour d'un point important, c'est la création de la charte sur la formation, la charte sur l'enseignement, qui est à l'initiative de l'OPQAI en 1996 et qui a été le point de départ d'une reconnaissance de ces cursus en bac plus 5 d'enseignement d'architecture intérieure.
Marion Bochirol.
Oui, juste pour compléter ce que dit Thierry sur la formation, effectivement, on se rend compte qu'on est dans un métier alors très technique, on est dans un métier du bâtiment, hein, donc il y a toute une culture technique et architecturale qu'il va falloir acquérir pendant ces années de formation, mais on est aussi une profession, comme on disait tout à l'heure, vraiment en lien avec l'être humain, donc avec tout ce que ça comporte d'histoire, de sociologie, d'histoire de l'art également. Mmh. Et donc, l'architecte d'intérieur ne peut être que former avec une très bonne culture générale dans tous ces domaines-là pour pouvoir répondre et intervenir aux différents types de clientèle avec lesquels il va être amené à travailler. Donc c'est vrai que on pourrait imaginer qu'en maîtrisant un logiciel de 3D, on devient architecte d'intérieur, mais il y a bien plus que ça. Il y a évidemment la maîtrise des outils, mais on est aussi sur cette culture architecturale, technique, conceptuelle qui est très importante et qu'il ne faut pas occulter puisqu'on voit là, voilà, de plus en plus des formations très très courtes proposant des reconversions professionnelles par exemple ou à des étudiants de pouvoir se former à ces métiers-là en 1 ou 2 années, ce qu'on considère nous étant comme étant presque dangereux pour la suite.
Un peu léger, on l'a compris. Donc oui, formation complète. On a défini donc cette frise chronologique, le PQAI, CFAI, aujourd'hui, donc qui définit les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de ce métier. Alors évidemment, la France n'est pas tout seul, isolée. Est-ce que vous pouvez nous parler, Thierry, du European Council of Interior Architects, c'est-à-dire une initiative qui est quoi, européenne?
Oui, alors le CIA, le Conseil européen des architectes d'intérieur, est en fait une association d'associations. Dans les années, je crois que c'est 90, enfin, dans les années 70, il y avait un organisme qui s'appelait l'IFI, qui était l'International Federation of Interior Architects, et qui a créé en fait une filiale européenne qui s'est appelée le CIA, et le CIA est devenu autonome. Alors elle regroupe aujourd'hui une vingtaine de pays qui délèguent une association représentative des architectes d'intérieur dans chacun de ces pays. Et ça fait un tour de table très intéressant puisque les modes d'exercice ou les modes de reconnaissance sont tous un peu différents. Mmh. Par contre, ce qui unit toutes ces associations, c'est le terme architecte d'intérieur, interior architect, qui est vraiment référencé partout. Alors, je parlais tout à l'heure d'une charte sur l'enseignement, qui était une initiative française de 1996, qui a été signée en fait par tous les adhérents de l'ECIA en 2000 ou 2001. Et puis, ce work in progress a continué à travailler et l'année dernière a été déposée une mise à jour définitive pour les quelques années qui viennent, de cette charte sur l'enseignement, qui est une charte européenne de l'enseignement et qui a fait dire à la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, que c'était le plus petit dénominateur commun qui permettait à une activité professionnelle de se reconnaître, c'était bien justement l'enseignement. Voilà, donc le CIA, c'est ça, c'est une base de travail, une base de rencontre, de partage, et je vais dire encore un tout petit mot là-dessus, si vous me le permettez. Le CIA est, on va dire, cofondateur et co-signataire d'une plateforme toujours voulue par la présidence de l'Union européenne, qui s'appelle le New Bauhaus, qui est une manière de réfléchir aujourd'hui sur ce que sera l'évolution de nos modes de vie, de nos logements, de notre environnement, et qui regroupe une vingtaine de grandes associations internationales européennes, les architectes internationaux, les urbanistes, les landscape architects, les architectes d'intérieur, etc. Et le CIA est partie prenante dans cette histoire.
D'accord. New European Bauhaus,
oui.
Qui fait donc référence au grand mouvement lancé dans les années 1920, oui. En Allemagne, donc une reconfiguration
Exactement, et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure. C'est très ambitieux et c'est tout à fait passionnant pour des gens qui sont au départ des créatifs, comme nous le sommes, parce qu'on sait très bien que les débuts de siècle sont toujours porteurs d'innovation et d'idées émergentes, et je pense que c'est le cas en ce moment.
Bon, même si on se souhaite quand même un siècle moins agité que le précédent, surtout au niveau des guerres. Hein. Alors, Marion, reviens-vous. Vous êtes présidente du Pôle Action des architectes intérieurs en Auvergne-Rhône-Alpes depuis 3 ans maintenant, depuis 2018. Pouvez-vous nous dire quel est le rôle du pôle action des architectes d'intérieur ?
Alors, avant de répondre à votre question, donc on a parlé tout à l'heure du Conseil français des architectes d'intérieur qui a une vocation plutôt ordinale, au même titre que l'Ordre des architectes, par exemple, dont Thierry a parlé. Nous, au niveau du pôle action des architectes d'intérieur, on est plutôt une association professionnelle qui avons pour vocation d'animer la profession en région. Donc, on représente maintenant environ 200 architectes d'intérieur sur tout le territoire français. On a un ancrage régional qui est extrêmement fort et on amène nos confrères, nos consoeurs à se rassembler pour des actions vraiment très collectives, très concrètes, qui vont les aider dans leur pratique du métier, qui vont aussi leur proposer un réseau d'échanges, de coopération, de solidarité entre des architectes très expérimentés, mais aussi les plus jeunes, puisqu'on accueille tous les ans beaucoup de nos jeunes confrères qui sortent des formations dont on parlait tout à l'heure. Donc ce pôle action, c'est aussi un centre de ressources et d'expertise, et puis de réflexion prospective sur notre métier. On fédère des professionnels autour de séminaires, de formations continues spécifiques. Et on développe tout un tas d'actions en région pour nos confrères et nos consoeurs.
D'accord. Tiens, justement sur les jeunes là que vous accueillez, est-ce que c'est pas difficile en ce moment ? On sait qu'il y a eu une petite coupure aussi dans les études. Comment justement ils sont accompagnés ces jeunes qui vous rejoignent ? Est-ce que cette solidarité que vous évoquiez entre les plus expérimentés et les plus jeunes, post-Covid ?
Alors, on a essayé de maintenir malgré tout notre relation avec les étudiants sous forme de visioconférences, de sensibilisation pour leur dire qu'une fois leur diplôme passé, évidemment, ils pourraient continuer à être accompagnés par des organisations professionnelles, que sont les pôles action et le CFAI. On a continué aussi, malgré tout, à les recevoir en stage dans nos agences, même si, évidemment, on était, comme on dit, en mode un petit peu dégradé sur du stage à distance, mais on a essayé, dans la mesure du possible, de continuer à les emmener sur certains chantiers et à maintenir ce lien avec les jeunes. Nous, ce qu'on met vraiment aussi beaucoup en place, c'est un séminaire mensuel sur des thématiques très très variées qui vont par exemple parler de questions assurantielles, de questions juridiques, de questions techniques, mais aussi de questions méthodologiques et de pratiques du métier. Donc ça aussi, nos jeunes adhérents sont assez effrayants de ces partages-là qui leur permettent d'appréhender un petit peu mieux le côté très concret du métier qu'ils n'ont pas forcément eu le temps d'aborder toujours de manière très complète dans la partie études. Donc le lien a été un petit peu distendu, mais on essaye d'être à leur côté dès qu'ils rejoignent la vie professionnelle. On met aussi en lien certaines agences qui cherchent des collaborateurs, qui cherchent sur un mode de coopération au niveau de la recherche d'emploi également, et puis évidemment aussi des éléments de sous-traitance et de co-conception sur certains projets.
En tout cas, on parlait tout à l'heure de vocation. Pour aller plus loin, et ceux qui s'intéressent, il y a un site internet aussi. Évidemment, le Pôle Action y participe. Je crois que vous faites les éditos, Marion Bouchirol. Donc, on va donner l'adresse à cfai.fr pour tout connaître justement sur ce métier, se faire reconnaître, se former bien évidemment. Et puis il y a également des projets, des portraits, etc. pour ceux qui souhaitent en savoir plus. On en sait un petit peu plus quand même sur cette profession. On va bien sûr, tout au long de cette série de podcasts, aller plus dans le détail et voir pratiquement comment ça se passe. Le Pôle Action France, c'est ça dont vous voulez parler, Yves Paulet ?
Oui, c'est simplement... Le Pôle Action est une idée qui a maintenant 5 ou 6 ans et notre idée a été de rester régionaux. Mais tout en ayant un lien national très fort entre nous. C'est-à-dire que, on a, comme le disait Thierry tout à l'heure, il y a un passé, il y a eu des associations qui ont existé et qui n'ont pas su bien fonctionner sur le plan national. Et donc on s'est dit, nous restons régionaux, nous animons en région, mais en fait, on se parle en permanence. Mmh. Et d'ailleurs, cette série d'émissions va s'inscrire dans cette dynamique, c'est-à-dire qu'il y aura des confrères et des consoeurs, toutes régions confondues, qui viendront parler de cette magnifique profession. Et donc, nous avons un site internet...
Pôle-action.fr, voilà, Pôle Action des architectes
et qui renvoie à chacun des pôles actions constitués, ce qui nous permet, sous une seule et même ombrelle, de bien donner une dimension nationale à cette profession, à cette association, qui permet aussi d'être un marqueur et un repère.
Très bien. Eh bien, en tout cas, on renvoie donc tous nos auditeurs à ces deux sites internet, pôle-action.fr, cfai.fr. On arrive au terme de cette émission. Un grand merci à nos trois intervenants. Yves Paulet, donc architecte d'intérieur CFAI, mais vous l'êtes tous les trois. Marion Bocherolle, un grand merci. C'était très clair. Et merci Thierry Conquet pour vos explications limpides et sur cette historique. J'ajoute que Thierry n'a aucune note. Hein, voilà, c'est très bien. Il a toutes les dates en tête. Voilà, on se retrouve quant à nous eh bien, très prochainement pour un nouveau numéro de Regards Croisés. Très bonne journée à tous.
Architecture intérieure, Regards Croisés, le podcast qui décrypte le métier d'architecte d'intérieur. Une émission présentée par Fabrice Coustet.